quand même, on a un peu quand même une fierté de gamer, quoi. Tu vois.
Je vois ça. On va tout dire aux auditeurs. On s'est croisés tout à l'heure. Et puis tu as dit, hey, tu n'as pas dit que tu jouais à Street Fighter. Je sais, bah ouais, ouais. C'est le seul jeu quasiment moi de ma jeunesse auquel j'ai joué. Il m'a dit, tu viendras là. Je te filerai la manette. Je prendrai la batterie. Ouais, c'est on voit quand même ce côté aussi. Et c'est tout l'intérêt aussi du jeu, du gaming, bah, quoi. Oui, c'est de se défier, bah, voilà. De venir un peu se taquiner même.
Ouais, moi perdre ça me dérange pas en fait, mais par contre j'ai envie de faire le max, quoi. C'est ça qui compte en fait. Perdre ou gagner, on s'en fout, ce qui compte c'est faire le maximum. Et puis si on peut gagner, c'est quand même mieux, tu vois.
Ah. Ouais, puis se défier un petit peu, ouais. Quoi. Ça fait pas de mal.
Je suis allé voir tous les créateurs de contenu avant que ça ouvre en leur disant, hey, les gars, un Street Fighter, je joue avec une batterie, tu peux pas perdre.
Ouais, mais tu les avais pas prévenus que t'étais super balèze là-dessus.
J'avais pas dit que je m'étais un petit peu entraîné avant la convention, que j'avais un peu préparé mon coup. Ouais.
Et alors du coup, tu l'as fait avec tous ceux qui interviennent là ?
Ouais, je l'ai fait avec...
Qui t'a battu ? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est, tu l'as pas dit, mais il y en a deux qui t'ont battu.
Ouais.
Qui sont-ils ? Est-ce alors, que ce sont des intervenants ?
C'est ceux qui étaient, c'était prévu qui me battent, je le savais d'avance. Il y a Pierrot le joueur, qui est là, quelqu'un très très gros joueur Street Fighter, et donc je savais que j'avais aucune chance. Lui, il m'a même pas battu, il m'a lavé, comme on dit, tu vois, j'ai rien compris. Et Sofiane le geek aussi.
Ouais.
Je m'attendais pas à ce qu'il me batte aussi comme ça, mais il a été meilleur. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont voulu faire plusieurs parties pour dire non, c'était la partie de chauffe, tu vois, mais non, c'est pas passé. Il y en a que deux qui m'ont battu.
Bon, bah nous, on prend un ticket. De toute façon, avec Jacob, on a l'habitude de jouer ensemble, ouais. Hein, Street Fighter. Donc, on a pris un ticket, bien entendu, pour aller nous essayer. Jacob, alors, ouais.
Sur Street Fighter, avez-vous tendance à changer de perso ou restez toujours sur le même ?
Alors, non, je prends Ryu parce qu'en fait, j'ai commencé Street Fighter il n'y a pas si longtemps. Et donc, j'ai commencé avec Ryu. Et pour l'instant, je n'ai pas changé. Je me focus sur un et quand je le maîtriserai, peut-être je changerai.
Sur les personnages, moi, à chaque fois, je prenais Vegas.
Ouais.
Tu vois, c'est... Vega ou Vegas, je ne sais pas comment on dit.
Vega.
Je prenais Vega, moi, à chaque fois. Et on me disait, ouais, ça triche parce qu'il allonge les bras et tout. Ouais, alors, je sais qu'il y a des écoles, hein, quand même, chez les joueurs, parce qu'il y a des personnages qui sont plus ou moins fantaisistes.
Oui, oui, chaque personnage a ses spécificités. Il y en a qui tapent plus loin, d'autres qui ont plus de coups, donc ils font plus haut, plus... accroupi, enfin ouais, chaque perso a sa personnalité.
Ouais, mais il y a les classiques et puis il y a ceux qui sont un peu à part.
Ouais. Ah, puis en plus, à chaque jeu, ils en ressortent. Ils ressortent des nouveaux persos, ils remettent des nouveaux, puis il faut réapprendre à jouer. Mais bon, on va se faire une game, puis les gars, vous pouvez pas perdre. Moi, je joue avec une batterie, tu vois.
Il l'a fait à tout le monde, celle-là. On sait très bien qu'on va se faire éclater, mais c'est pas bien grave. Le principe, c'est de s'amuser et puis et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup à
avec
toi,
plaisir,
Mordek. On peut venir, bien entendu, te rencontrer sur la Pop & Geek. Vous l'avez entendu, il est sympa. Allez le voir. Il va vous lessiver toujours en disant qu'il peut. Vous pouvez pas perdre, mais c'est faux. Vous pouvez que perdre face à lui. Merci beaucoup,
Mordek
Dream.
Merci beaucoup, en tout cas. Allez, salut.
Je me retourne vers Damien et je propose... Allez, vas-y, ça conclurait bien avec un petit peu de jeu vidéo, si tu veux bien. Ben oui, on a un spécial. C'est les petits Jésus voyageurs qui reprennent tout ce medley de jeux vidéo. On les retrouve et puis on revient après en plateau. We'll be right back. Ah, celui-là, je le connaissais, mais je me rappelle plus lequel c'est. Ça te dit rien non plus, Damien, hein ? Jacob, ça, en jeu vidéo, ça te dit rien dans le micro ?
C'est du Mario.
C'est du Mario, ça ?
Ouais.
Tu sais...
Mario World ?
Tu dirais Mario World ?
Ouais.
Ben voilà. Quand je vous disais qu'on avait un consultant spécialiste de tous ces trucs-là, on fait appel à lui à chaque fois qu'on ne sait pas. Nous poursuivons nos échanges, nos rencontres. Nous sommes toujours en direct en live et en public de la Pop and Geek où on vous invite à venir nous rejoindre ce samedi, mais également demain le 8 mars. Nous retrouvons Maxence qui fait partie de l'association Gamer.
Bonjour.
Qui est spécialiste des cartes Pokémon.
Exactement.
Ça, c'est vraiment sa spécialité. Tu es présent aujourd'hui sur place. J'ai vu que ça discutait, ça échange des cartes, ça fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe sur le stand ?
Alors sur le stand, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est essentiellement accentué sur l'échange. Donc on a plusieurs personnes qui viennent avec leur collection personnelle et puis qui viennent présenter leurs cartes. Nous, on a les nôtres également. Puis ça permet de discuter un peu de tout, de nos passions.
Est-ce que vous pensez que la licence Pokémon est en déclin ces derniers temps ?
Oh non, pas du tout. Elle n'est pas prête de décliner, je pense.
C'est vraiment un truc qui a traversé les âges. Elle a combien de temps, cette fameuse licence Pokémon qu'évoque Jacob ?
Bah, elle a 30 ans.
Ah ouais, quand même.
Oui, depuis avant-hier.
30 ans depuis avant-hier. Ah ouais, c'est tout chaud. Ah ouais, c'est... Donc je disais que c'est un consultant. Je vais te laisser à la question, si tu as des questions à poser à Maxence, même si toi tu as beaucoup de réponses, les auditeurs ne les ont pas forcément. Est-ce que tu as des questions sous le coude ?
Oui. Comment les vieilles cartes gagnent de la valeur ?
C'est une excellente question. Bah, elle gagne de la valeur par le côté vintage, puis à travers les âges forcément, donc sur toute la partie collection, la majorité du temps, tout ce qui est un petit peu plus ancien prend de la valeur, parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver certains articles maintenant, parce qu'on ne peut plus les acheter scellés où on peut, mais les cotes explosent énormément. Et les états aussi, forcément, trouver des cartes de 95 en excellent état, c'est très compliqué. Alors ça se trouve, mais à des prix, faut mettre le prix en face, quoi.
Mais est-ce que toutes les vieilles cartes rétro prennent beaucoup de valeur ?
Non, pas toutes, parce qu'ils ont forcément certains Pokémon qui sont beaucoup plus, on va dire, réputés sur toute la partie collectionneur. Donc le Pokémon typique, hein, que tout le monde, on va avoir Pikachu, on va avoir Dracaufeu. Tous ces Pokémon-là, c'est pas forcément une carte de 95 qui va forcément coter énormément, mais on a certains Pokémon qui vont coter vachement plus que d'autres.
Que pensez-vous des gens qui investissent des sommes énormes pour, par exemple, un Pikachu Illustrator ?
C'est quoi un Pikachu Illustrator ? Là, les pros, ils sont en train de discuter entre eux.
Pikachu Illustrator, c'est la carte qui s'est vendue à... J'ai plus exactement la somme, mais à des millions d'euros, il y a peut-être une semaine, aux enchères, une ou deux semaines à peu près.
Ah ouais ?
Donc, moi, personnellement, mon avis, quand on a les moyens de le faire, pourquoi pas ? Si c'est une passion, une collection, je dirais qu'il n'y a pas de prix, en fait.
Quand on parlait de valeur, mais on parle aussi de jeu, parce que c'est un jeu avant tout. Alors aujourd'hui, il y a deux choses en fait dans les Pokémon quand même. Il y a le côté collection, le côté valeur des cartes, le côté voilà, je me fais mon deck de rêve. Mais il y a aussi le jeu à proprement parler. Ça joue en Pokémon.
Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs. Il y a la partie jeu vidéo. On peut retrouver sur différentes consoles, donc il y a différents tournois. Et il y a la partie TCG, Trading Card Game.
TCG, c'est-à-dire ?
TCG, c'est Trading Card Game. Donc le TCG, c'est vraiment sur les cartes qu'on peut collectionner. Et c'est avec ces cartes-là qu'on fait des decks et qu'on joue réellement. C'est un jeu de société, en fait, à la base.
Ça veut dire qu'en fait, c'est devenu quand même un phénomène de pop culture. Merci. Mais avant tout, c'est un jeu de société.
Exactement. À la base, c'est vraiment du jeu, le jeu de cartes, un jeu de société qui a été dérivé forcément avec de la collection. Mais maintenant, on retrouve beaucoup de decks, beaucoup de championnats, beaucoup de tournois, d'associations qui font toutes ces compétitions.
Sur ces fameux jeux, on voit qu'il y a des bourses d'échanges, il y a tous ces trucs-là. C'est une vraie communauté, en fait, finalement, cette communauté Pokémon.
Bien sûr, on retrouve vraiment différents profils entre vraiment les collectionneurs, des personnes que nous, on sollicite au quotidien, qui, eux, ne font pas du tout de collection, mais qui sont accentués vraiment sur le jeu, et la collection ne les intéresse pas. Donc on a vraiment tout type de personnes.
Oui, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y en a, c'est que la collection qui les intéresse, ça joue pas avec. Et presque à l'inverse, il y a des gens qui jouent et peu importe la collection, c'est on fait juste ça. Un deck de gagne, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'idée,
c'est
quoi.
C'est exactement ça.
C'est alors ces deux univers, ils sont en contact ou pas?
Ah, bien sûr, ils sont liés. Nous, par exemple, quand on fait quelques tournois, on se retrouve avec les mêmes personnes et forcément, on va échanger entre joueurs.
Justement sur ces questions de jeux et de Pokémon, il y a aussi tout ce qui est animé, manga, enfin il y a tout un univers de j'ai envie de dire de séries et de films qui existent autour de jeux vidéo également. On parlait tout à l'heure avant d'arriver sur l'antenne là du Pokémon Go là, qui a été une grande révolution, d'aller chercher des Pokémon dans la vraie vie, dans les lieux publics. Il y a un lien dans tout ça où on est vraiment sur des secteurs très différents.
Non, tout est lié. Alors c'est dommage, il n'est pas là actuellement, mais on a un ambassadeur Pokémon Go donc qui aurait pu un peu expliquer un peu le concept et puis tout l'univers, mais tout le monde reste lié par la même entité qui est Pokémon.
Alors Damien, il voulait intervenir, lui, il a vu tous les dessins animés.
Alors moi, bizarrement, non, je ne suis pas du tout fan. Je n'aime pas du tout. J'ai vu le premier au cinéma, j'étais animateur de centre de loisirs, je vous raconte ma vie. Il était flingué, il était vilain, les effets étaient moches. J'ai vu un plus récent et c'était sympa en animé, ça doit être le dernier qui était sorti en cinéma, avec Sacha. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, hein, ouais, je ne suis pas spécialiste. Ça. Moi, une question, camarade. Quand on vient te voir pour évaluer peut-être une carte, qu'est-ce que tu vas utiliser? De quoi vas-tu te servir? Est-ce qu'il y a des livres références qui vont te permettre de savoir à combien a été éditée cette carte, vérifier l'année? Enfin bref, comment juge-t-on de la valeur d'une carte? De quoi se sert-on? De quels éléments et de quel outil?
Bah nous, on va beaucoup utiliser, il y a beaucoup d'applications ou de sites internet. Les deux essentiels, on va beaucoup utiliser, c'est Card Market, où il y a énormément de ventes de cartes. Et en fait, on se base essentiellement sur ces cotes-là. Alors, on ne reste pas uniquement avec un site parce qu'on appelle ça les scalpers. Je pense que...
C'est quoi un scalper?
C'est ce qui tue un peu la communauté. C'est-à-dire que quand il y a des sorties d'items qui sont annoncés par Pokémon, on va se retrouver avec des personnes qui vont envahir les magasins et acheter le plus de stock possible pour revendre plus cher.
D'accord.
Et alors ça après... spécule même ouais. En fait dans du Pokémon.
Ça spécule dans tout. Hein. Le les chaussures capitalisme, de sport, c'est pareil. T'en as au pied, c'est un peu le même business. Et deuxième chose, le marché. Je veux bien Jacob aussi ton regard et toi le spécialiste, mais toi aussi Jacob, le marché de la fausse carte, de la triche, de la contrefaçon. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je pense que c'était très grillé de les repérer. Est-ce que on peut se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué, vous utilisez peut-être des loupes parfois, ou alors Pokémon la licence utilise de nouveaux recours pour essayer de bien contrer la chose, parce que est-ce que c'est présent, est-ce que ça inonde le marché, on est comment sur la fausse carte?
Bah à l'époque on pouvait facilement remarquer une fausse carte car elle avait les couleurs de derrière qui étaient légèrement abusées, par exemple un bleu qui était beaucoup trop bleu. Actuellement je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne crois pas qu'il y ait un système comme à la Yu-Gi-Oh! Où sur les vraies cartes, il y a un sticker personnalisé qui ne peut pas être copié. Donc actuellement, je ne pourrais pas dire.
Alors effectivement, il n'y a pas de système à proprement dit pour vraiment...
C'est l'expérience?
Ouais, en fait, c'est vraiment l'expérience. Et on profite justement, sur les bourses, pour sensibiliser beaucoup les personnes. Et c'est très souvent avec les enfants, en fait. Pour les Noëls, etc. Les parents vont aller acheter sur Amazon, toutes ces plateformes-là, en fait, Amazon, Wish et tout ce qui va avec. La majorité du temps sont des fausses cartes. Alors, on va les reconnaître avec l'expérience. Effectivement, on va d'un coup d'œil, on le voit tout de suite. C'est flagrant.
L'arrivée des cartes Disney, c'était un point positif parce qu'elles avaient l'air jolies. Est-ce que ça a un autre monde, ça touche d'autres personnes, ou est-ce qu'au contraire, ça contribue à la démarche et la collection, l'aspect collection?
Ouais, c'est un autre univers. Donc les personnes qui sont vraiment fans de Disney, je pense, se sont lancées sur cette collection-là. Nous, pour la petite anecdote, ma femme est fan de Disney, mais c'est pas pour autant qu'elle collectionne. Mais un plaisir pour notre fille qui est plus jeune, quand on est dans l'univers Pokémon de cartes à collectionner, bah, de temps en temps, ça nous arrive d'acheter quelques paquets comme ça.
J'ai une dernière question. Est-ce que tu arrives à mesurer le nombre de cartes que tu as dans ta collection? Parce que moi, si on me demande le nombre de paires de baskets ou de disques vinyles, je suis incapable de te répondre.
Bah, c'est la même. Je serais incapable de répondre en donnant le nombre exact de cartes.
Jacob, toi, pour toi
Personnellement, c'est pareil. Je ne saurais pas répondre, mais je pense que je dois bien être autour de minimum 200 ou 300.
D'accord.
Sur, j'imagine qu'à la maison, ça va prendre de la place, tout ça. Parce que là tu évoquais, t'as une vie de père de famille. Bon, quand on est jeune, on se dit, bon, c'est pas grave, il en fout plein partout, c'est pas bien grave. Mais quand on est parent, voilà, on a ce statut de parent, on en met toujours autant partout.
Eh ben, il y en a partout, oui et non. C'est-à-dire qu'on a une pièce un peu dédiée à ça, à tout ce qui est jeux vidéo, rangement de nos cartes. Et c'est la pièce où on se retrouve avec les enfants et tout est bien rangé, bien classé, et on s'arrange, on essaye de s'arranger pour essayer d'évacuer, justement grâce aux bourses, d'évacuer un peu du stock, parce que sinon effectivement on n'en finit plus.
La vérité, ta fille, elle n'avait pas le droit de rentrer dans cette pièce tant qu'elle n'avait pas compris qu'elle ne pouvait pas toucher à certains objets ou certains tiroirs.
Les auditeurs ne le voyaient pas, mais Maxence était en train de se marrer en disant « Ouais, exactement. La possession Pokémon dont tu es le plus fier, soit par la manière dont tu l'as eue, soit par la valeur émotionnelle qu'elle a. Je parle pas de financière, hein, je parle de la possession Pokémon dont tu es le plus fier, la carte maîtresse ou l'objet maîtresse de ta collection perso.
Bah, je dirais, j'ai pas forcément de pièce maîtresse, mais c'est plus une série. Alors c'est même pas le côté comme vous le disiez, le côté financier, c'est vraiment le côté nostalgique en fait. C'est vraiment ça lance un peu le déclic de souvenirs en fait, étant enfant dans la cour de récréation. C'est vraiment ça en fait l'impact. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai une des séries que j'avais quand j'étais enfant, j'ai retrouvé 20-30 cartes à peu près sur cette série là et il y a peut-être 2-3 ans, je me suis relancé pour vraiment la terminer. Donc c'est vraiment le côté vraiment nostalgique.
Elle a un nom cette série?
Ouais, c'est du bloc X, c'est la série Phantom Holo que je fais, qui prend du temps parce qu'effectivement il y a des cartes qui sont extrêmement chères dedans, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, voilà.
Mais t'auras ta série?
Ouais, j'aurai ma série, il n'y a pas de souci.
Jacob, toi, il y a une carte, une possession Pokémon, parce que je sais que t'en as aussi pas mal. Il y a une possession Pokémon qui te tient plus à cœur qu'une autre. Et comme je disais, pour différentes raisons. Hein, ça peut être par la façon dont tu te l'es procurée, par le souvenir qu'elle renvoie, par la valeur de comment elle est puissante. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une possession Pokémon dont t'es plus fier?
Actuellement, ce n'est plus qu'à. À une époque, j'aurais peut-être répondu quelque chose, mais maintenant, non. Je me suis totalement désintéressé de ce genre de choses et j'arrive plus à trouver ou à estimer quelque chose qui pourrait faire vibrer quelque chose en moi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment, on est passé à ça prend de la place et puis après, c'est tout ou rien, quoi. Sinon, ça marche pas, quoi. On peut plus être à moitié Pokémon. On est totalement ou pas du tout.
Après, je peux comprendre un peu le fait de se désintéresser, parce qu'on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui se désintéresse vraiment du Pokémon. Pourquoi? Parce qu'à cause des scalpers, comme on disait tout à l'heure, sur toute la spéculation qu'il y a autour des cartes, et les stocks qui sont très difficiles à obtenir pour le coup. Et on appelle ça aussi le taux de drop. C'est-à-dire le taux de drop. En gros, c'est le ratio sur un paquet de cartes d'avoir une carte extrêmement rare. On va avoir certaines séries, on va devoir dépenser des milliers d'euros pour avoir une carte, on va dire, exceptionnelle. Donc ça peut refroidir énormément de personnes et faire arrêter aussi certaines personnes.
Parce que évidemment, j'ai l'impression que si on est total Pokémon ou on ne l'est plus, mais on n'est pas entre deux, quoi.
Ouais,
on l'a mangé, on en mange ou on n'en mange pas, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est difficile de rester au milieu. C'est vraiment, on reste dedans. Nous, on a l'avantage, étant un couple, on est systématiquement dedans avec les enfants. Donc, puis on profite de vraiment tous ces événements-là pour rester dans cet univers. Donc, même si c'est pas que de la collection, il y a du partage avec les gens, on discute, on s'intéresse, et c'est ça qui est sympa.
Eh ben merci beaucoup Maxence,
merci
d'avoir partagé cette passion Pokémon et toutes ces petites astuces qu'on a découvertes en ta compagnie. Nous sommes toujours en direct en live et en public de la Pop & Geek au gymnase de Conchandouche. Merci Maxence, il va retrouver ses collègues sur le stand Pokémon. Nous, on repart en musique, peut-être un titre complet. Non, tu voulais remettre du générique, c'est ça, hein? Ben ouais, je sais. Ben oui, quand on aime, on compte pas. C'est ça, ben voilà, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui. Ouais, Damien, il me disait, ça c'est Mario, là, quand on arrivait. Effectivement, vous êtes en train d'écouter un medley réalisé par les petits Jésus voyageurs autour du jeu vidéo de manière générale. D'ailleurs, pour info, ils jouent ce soir à la Brasserie Sport sur Gravigny, si vous voulez les voir dans leur forme plus générale. Nous sommes toujours en direct, en live et en public de la Pop and Geek 4e édition qui se déroule sur le gymnase de Conchornouche, où rejoignez-nous, en fait, c'est là où ça se passe ce week-end, tout simplement. Et nous avons avec nous Sofiane Le Geek. Sofiane Le Geek, on va dire youtubeur spécialisé en manga et même, je peux aller plus loin, en Dragon Ball. Également scénariste d'un manga autour de l'univers de Dragon Ball, Saiyan Origin, si je dis pas de bêtises. Sofiane, voilà.
Exactement.
Il est avec nous. Bonjour. Exactement. À toi. J'ai dit que t'étais speaker, enfin que t'étais animateur aussi de l'événement. Je sais plus si je l'ai dit, mais t'es aussi animateur de l'événement.
Tu l'as pas dit, on peut le dire.
Ouais, ouais. Ben voilà, on peut le dire également. J'ai envie de rentrer directement dans cette notion de manga, dans cette notion aussi de youtubeur. Tu es aujourd'hui sur le devant des youtubeurs manga qui proposent, qui échangent autour de ça. Il y a une réelle communauté qui existe autour du manga. Dans quel univers mangaïstique toi tu navigues? Parce qu'il y a plein de choses dans le manga, en fait c'est énorme cette culture manga. Dans quel univers plus spécifiquement toi tu navigues?
Bien sûr, alors